paix. Il est 12h. Le journal de midi. Christelle Yesso.
Madame, monsieur, bonjour. Soyez les bienvenus à cette édition. En visite dans le sud Komoé, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rassure les populations de Bonoa du soutien de l'État. Dans le Bounkani, les populations ont été sensibilisées à la gestion des conflits. Hors de chez nous, le Mali, le Burkina Faso et le Niger lancent de nouveaux passeports biométriques. Et en sport, il s'est tenu à Abidjan le symposium technique de la CAF avec les entraîneurs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les réactions des participants à découvrir en fin d'édition. Et nous terminerons avec l'invité de la rédaction. Kwasi Brindoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI, revient sur la déclaration du président du parti faite au retour de son voyage. Visite de travail du Premier ministre dans la région du Sud Komoé. Robert Begré-Mambé était hier à Bonoa, où il a échangé avec les populations de Bassam, Adiaké, Assini et Bonoa. Si les populations ont salué les efforts faits en matière de développement en faveur de leur région, elles reconnaissent que des choses restent encore à faire. Junior Cardin pour plus de détails.
Le porte-parole des populations est le président du conseil régional du Sud Komoé, Eugène Akawele, qui égrène quelques réalisations faites par le gouvernement et le président Alassane Ouattara.
Faire cas de l'autoroute internationale de Grand Bassam, de l'autoroute Grand Bassam-Assini, du développement de la zone franche de Viti, de la construction de la zone industrielle de Bono, de la voie bitumée A100 de Tiapoum, de l'industrialisation en cours du Sud Komoé, de la construction du CHR d'Abosso, des travaux de l'ouverture de l'embouchure de Grand Bassam.
Poursuivant, Eugène Akawele a indiqué que malgré tous ses efforts, il reste encore quelque chose à faire. Mais sans entrer dans les détails, il a remis un livre blanc au Premier ministre. Les différents axes de ce document.
Les infrastructures de transport, l'accès à l'eau potable et à l'électricité, les infrastructures éducatives, sanitaires, les infrastructures de sécurité, les infrastructures économiques et sociales, l'insertion professionnelle des jeunes, des femmes, les infrastructures administratives, le développement touristique, culturel et sportif.
À son tour, le Premier ministre Robert Begré-Mambé a rassuré les populations quant à l'analyse scrupuleuse des doléances.
Le message que le président m'a chargé de vous apporter, c'est de vous rassurer. Toute la politique qu'il conduit ne vise qu'à rendre les Ivoiriens heureux, solidaires les uns envers les autres, que nous allons revenir à Bonoa avec des projets lourds pour donner à tout le Sud Komoé ce que le Sud Komoé mérite.
Notons que dans la foulée, la première dame Dominique Ouattara a fait plusieurs dons, entre autres 3 ambulances, des lits d'hospitalisation, des tricycles et des presseuses de manioc.
Et dans le Bounkani, ce sont au total 2400 jeunes et adolescents éducateurs de pairs qui ont eu leur capacité renforcée en compétences psychosociales de vie courante en session de formation éclatée sur l'ensemble des 4 départements de la région. Ces ateliers de formation, organisés par la Direction régionale de la jeunesse, visent à renforcer la résilience des jeunes pour la paix et la cohésion sociale dans les communautés du Bounkani. On en sait un peu plus avec Jérôme Kwasi depuis Bouna.
Dans le nouveau contexte sécuritaire dans le Bounkani, la thématique gestion de conflits, une compétence de vie courante a été développée. Kofi Jaurès est le chef de service de la protection et de la vie associative.
Toutes ces rumeurs de Bouna, qui est la région qui est en proie d'attaques djihadistes, et donc on a préparé les enfants aussi à la gestion des conflits.
Une apprenante veut s'engager à sensibiliser ses pairs sur les méfaits des conflits. Oumou Diallo, élève en classe terminale A2 au lycée moderne de Bouna.
De sensibiliser mes amis et la population sur les conflits, parce que les conflits sont des faits néfastes pour notre société. Il y a la mort, des handicaps, destruction des biens publics et personnels, et puis nous avons des traumatismes.
Le but recherché est la transformation de la personne humaine, nous dit Hervé Meyao, superviseur des éducateurs de pairs.
Avoir la maîtrise de soi, de pouvoir interagir face à une situation et de façon sociale, comment se comporter dans la société.
Pour Awa Grasse, une autre apprenante, l'éducateur de pairs bien formé est un citoyen transformé.
Elle respecte les biens publics. publique. Ils participent à la paix et à la cohésion sociale.
La formation des éducateurs de paix est un vaste programme national, indique Ali Ouattara, le directeur régional de la promotion de la jeunesse.
Où déjà 20 000 jeunes ont été impactés sur toute l'étendue du territoire national. Et cette année 2024, c'est 7 000 jeunes qui seront impactés par ces formations en CVC pour la résilience, pour la paix et la cohésion dans nos communautés.
Ces compétences acquises permettront aux jeunes de Bouna de se soustraire assurément de l'attrait du fondamentalisme violent. Jérôme Kwasi Kourou de Bouna, Radio de la Paix.
Et tout autre sujet, pratiqué dans la quasi-totalité des régions de la Côte d'Ivoire, l'orpaillage illégal est en passe de devenir à ce jour, si ce n'est déjà le cas, l'une des principales ressources financières de nombreuses populations locales. Dans la région de la Maraoué, et plus précisément à Boiflé, le sous-préfet de la localité, Kofi Cabron Mathias, appelle le gouvernement et surtout le ministère de tutelle à mettre en place des mécanismes pour encadrer cette activité, compte tenu de son ampleur et des sa dangerosité. Kofi Cabron Mathias, dans ses propos recueillis par Emiliao.
L'orpaillage illégal, nous appelons à lutter vraiment efficacement contre ce phénomène très dangereux qui ne participe pas à renflouer les caisses de l'État, pratiqué par nos frères de la sous-région, en complicité avec les présidents des jeunes, les chefs des villages et les propriétaires terriens. Et ce phénomène est source de beaucoup de fléaux, que ce soit les braquages, les sacrifices humains, la prostitution, la drogue, la délinquance, les grossesses non désirées. À Boiflé, nous avons véritablement vécu ce phénomène. Mais depuis un certain moment, nous ne voyons plus, en tout cas, l'orpaillage illégal qui était pratiqué par des gros engins. Et ça, c'est l'apanage des populations elles-mêmes qui font avec les petits matériels. Et tant que c'est pratiqué par les populations autochtones elles-mêmes, c'est difficile de lutter contre. Surtout qu'à Boiflé, c'est un phénomène particulier, puisque à Boiflé, il y a beaucoup d'or dans le sous-sol. Et c'est pratiqué par les populations et c'est leur ressource. De la manière que vous partez dans les autres départements, que ce soit le cacao, les veillas, la pêche, eux, c'est de ça qu'ils vivent. Donc c'est très difficile de le combattre. Nous appelons même au gouvernement, tout au ministre, qu'ensemble qu'on réfléchisse pour trouver des couloirs où ils vont essayer de les encadrer pour qu'après leur passage, on puisse fermer des trous.
À l'instant, le sous-préfet de Boiflé, Kofi Cabron Mathias. Le Conseil régional du Tongpi a récemment renforcé sa coopération avec l'Agence japonaise de coopération internationale. Deux projets ont été discutés. Le premier vise à renforcer l'administration locale, tandis que le second concerne une enquête préparatoire pour un projet de prêt sectoriel axé sur la bonne gouvernance locale. Cette rencontre a eu lieu au siège du Conseil et a rassemblé des experts, des directeurs et des chefs de service. Ils ont abordé les orientations nécessaires pour la collecte de données avant le lancement des projets. Les détails avec Stéphane Adams.
La région du Tongpi est en passe d'en être futur bénéficiaire. Éclairage avec le responsable en charge des études pour la formulation du projet de prêt sectoriel dans le dispositif de la délégation de la mission de l'Agence japonaise de coopération internationale en mission à Mans. Déby Franck Yao.
À partir de janvier 2025, on sera déployé dans toute la Côte d'Ivoire pour déjà commencer les formations. Alors l'appel que je peux lancer, c'est de demander aux collectivités territoriales de véritablement s'approprier ce modèle-là qui est axé sur la participation de la communauté. Plus la population se sent impliquée dans les étapes de planification, de développement des infrastructures, cette population sera vraiment très heureuse et ça va encore renforcer la confiance entre la population et l'administration.
En plus, il apporte un additif.
Le projet de renforcement de l'administration par des formations que nous allons donner aux agents des collectivités pour leur permettre de mettre en pratique leur projet à travers ce modèle. Alors, les collectivités qui vont obéir ou encore qui vont respecter ce modèle, qui vont s'approprier, auront la chance de bénéficier du prêt sectoriel. C'est un fonds que l'État japonais voudrait apporter à l'État ivoirien pour permettre aux collectivités de pouvoir utiliser Modeli dans le développement de leur infrastructure.
Rappelons que deux phases pilotes ont eu lieu déjà dans le Gbeke et dans le Haut-Sassandra. Stéphane Adams, Mans, Radio de la Paix.
Et à quelques kilomètres de là, dans le Gbeke, le budget triennal 2025-2027 du Conseil régional a été adopté le week-end dernier à un peu plus de 12 milliards de francs à l'occasion de la troisième session de l'institution. Cette enveloppe permettra de doter plusieurs localités d'équipements communautaires de base. En ligne de Boaké, Joseph Assalé, notre correspondant régional.
Au cours de cette rencontre, les commissions constituées en vue de plancher sur le programme triennal ont fait des recommandations et observations. Écoutons la rapporteuse de la commission planification et développement.
Il se trouve que des secteurs importants comme l'agriculture, qui sont des programmes de développement pour les populations, ou bien même les programmes sociaux professionnels, n'ont pas été pris en compte dans le budget. Donc la commission planification a fait des propositions.
Selon le président du conseil régional de Gbeke, les propositions faites par les différentes commissions seront prises en compte. Puis, Assaoré Kona Jacques décline les principales actions prévues.
Renforcer les infrastructures existantes, créer des infrastructures qui à terme vont rapporter des ressources à la collectivité pour renforcer son autonomie financière et mettre en œuvre des activités qui vont redorer le blason de Gbeke.
Tous ces projets ne peuvent être réalisés que dans la cohésion et la solidarité, recommande le président du conseil régional de Gbeke, Assaoré Kona Jacques.
Tout ce que nous avons prévu de faire, grâce au président de la République, on peut le faire dans le cafouillage, dans le désordre. Je lance un appel à tous les conseillers de s'unir. C'est la cohésion, l'entente, la solidarité pour que nous puissions amorcer le développement de Gbeke.
Il rassure que son institution, autant que faire se peut, contribuera à améliorer sensiblement les conditions de vie des populations. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Intéressons-nous à présent à la filière élevage. Le nouveau président de l'interprofession de la filière des petits ruminants, en abrégé l'Interperu, parle de ses objectifs et défis dans son rôle de nouveau président, notamment l'atteinte de l'autosuffisance en ovins et caprins en Côte d'Ivoire. Le général Gaussou Soumaro est joint par Casimir Wandaogo.
L'interprofession de la filière petit ruminant, c'est une association qui est mise en place à partir de l'ordonnance présidentielle sortie en 2011. Comme je l'ai dit dans mon communiqué, l'objectif est de faire en sorte d'augmenter la production ivoirienne pour que à l'avenir moyen, donc à moyen terme, je veux dire, nous soyons autosuffisants. Un des défis majeurs est l'organisation des voies. Pendant la Tabaski, c'est des pressions qui sont sur les autorités. Ça pèse et sur les autorités et sur la population. Donc, notre défi majeur, on fait en sorte que cette année, on ne connaisse pas toutes ces pressions-là. On va faire en sorte dans notre sensibilisation à ce que les jeunes s'intéressent de plus en plus à cette activité et surtout les femmes qui ne doutent pas des capacités des familles des jeunes de notre pays. Si nous sommes déjà autosuffisants, nous allons penser à l'exportation. Mais c'est fait pour que nous puissions exporter aussi.
Vous écoutiez le général Gaussou Soumaoro, le nouveau président de l'interprofession de la filière des petits ruminants, l'Interperu. Et hors de chez nous, le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont bientôt lancer de nouveaux passeports biométriques avec pour objectif d'harmoniser les titres de voyage dans leur espace commun, a déclaré hier le chef militaire malien, le colonel Assimi Goïta. Nous travaillerons pour mettre en place les infrastructures nécessaires afin de renforcer la connexion de nos territoires grâce aux transports, réseaux de communication et des technologies de l'information, a-t-il poursuivi. Cette annonce a eu lieu la veille du premier anniversaire de la création de l'Alliance des États du Sahel. Et le président de la Guinée-Bissau, Oumaro Sissoko Embalo, a déclaré dimanche qu'il pourrait envisager de se présenter pour un second mandat si ses participants le souhaitaient, semblant revenir sur une précédente annonce selon laquelle il ne se représenterait pas. Mercredi, Sissoko Embalo, dont l'élection a été contestée par ses opposants, a déclaré qu'il ne briguerait pas un second mandat après celui qu'il exerce actuellement, qui court jusqu'en 2025. Mais lors d'une réunion dimanche de son parti, le Madame G15, il a indiqué qu'il était possible qu'il change d'avis. Et sans transition aucune, nous abordons la page sport. Abidjan a abrité du 12 au 13 septembre le symposium technique de la CAF avec les entraîneurs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Ce symposium s'est articulé autour de thématiques majeures telles que l'utilisation de la technologie VAR, présentée par l'Ivoirien Doué Noumandiès Désiré, directeur de l'arbitrage et de la technologie du football de la CAF. Des légendes africaines comme JJ Okacha, El Hadji Diouf et Kadi Seli ont également pris la parole pour partager leurs réflexions sur l'impact de la CAN sur le développement du football africain. La réaction de quelques participants à ce symposium, vous entendrez à tour de rôle les sélectionneurs Gernot Reur du Bénin et Faye Emers de la Côte d'Ivoire.
C'est bien qu'il y ait eu autant de coachs présents et les rencontres avec les coachs dans un contexte différent, pas comme adversaire, mais comme collègue et comme co-conférencier, c'est toujours un plaisir et on a pu échanger. Chacun tire ses leçons de la Coupe d'Afrique des Nations comme observateur et comme acteur. Encore une fois, c'était une CAN merveilleuse, la plus belle certainement. On a vu un niveau sportif qu'on n'a jamais encore vu dans une Coupe d'Afrique des Nations, mais aussi grâce aux bonnes structures et à la bonne préparation qui a été effectuée par toutes les équipes.
Le niveau de la CAN passée était très très élevé. D'ailleurs, il y a beaucoup d'équipes qu'on appelait les petites équipes qui ont fait un très très beau parcours, comme le Congo, comme l'Afrique du Sud, la Mauritanie. Donc non, il n'y a plus de petites équipes aujourd'hui et vraiment toutes les équipes sont venues ici avec des intentions, avec des ambitions. Et c'est ce qui a rendu, je pense, la CAN intéressante et c'est ce qui rendra la prochaine CAN encore plus intéressante. Le football africain, il évolue et la preuve, c'est que quand vous regardez aujourd'hui en Europe et quand vous regardez dans les grands clubs, il y a de plus en plus d'Africains. Avant, quand il y avait 3-4 Africains dans les gros clubs, on était content. Aujourd'hui, c'est quasiment 3-4 Africains par équipe qui sont dans les gros clubs. Franchement, c'est intéressant et on va continuer pour franchir la prochaine étape. La prochaine étape, c'est quoi? C'est qu'une équipe africaine gagne la Coupe du Monde.
Et nous en arrivons à présent à l'invité de la rédaction. De retour de long séjour hors de la Côte d'Ivoire, le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, lors d'une cérémonie au siège de son parti, a affirmé sans détour que tous les moyens ne sont pas bons pour arriver au pouvoir. Et il refuse de pactiser avec ceux qui ont recours à la violence, a-t-il ajouté. Kwasi Brindoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI, revient sur le contexte de cette déclaration. Il répond aux questions de Jean-Claude Comé.
Brindoumi Soumaïla, bonjour.
Bonjour.
De retour de son séjour hors du pays, le président du PDCI RDA, Tidiane Thiam, a été reçu par les membres de son parti. Et à cette occasion, il a fait une série de déclarations. Nous retenons une phrase qui fait polémique actuellement. Tidiane Thiam dit que sa conception à lui, c'est de ne pas s'allier à tous ceux qui veulent utiliser la force pour accéder au pouvoir. Que comprend concrètement?
Merci. Ce que le président dit, ce n'est pas M. Tidiane Thiam. Ce sont les principes et les valeurs du PDCI-RDA. Les valeurs du PDCI-RDA sont les valeurs de paix, de dialogue et de justice, d'équité surtout. Donc quand vous dites que la phrase fait polémique, elle ne fait pas polémique. Depuis le président Oufo-Boigny, la violence a été proscrite comme moyen d'accession au pouvoir. Le président Oufo-Boigny l'a dit, le président Bédié l'a dit, il le répète. Donc le président a dit en aucun cas, nous devons utiliser les moyens de violence pour accéder au pouvoir et nous ne devons pas pactiser avec ceux qui prônent la violence.
Alors justement, si vous précisez que ce sont vos principes fondamentaux, pourquoi il est-il nécessaire de repréciser cette idée-là?
La répétition est pédagogique, donc le président, chaque fois qu'il a l'occasion, il le dit. Il a même dit, vous vous rappelez son message à la nation pour le 7 août, le président a dit les méfaits que la violence va faire impacter sur la Côte d'Ivoire, notamment l'indice de développement humain, en disant que à chaque crise, nous dégringolons de l'indice dans l'IDH. De 99, nous avons dégringolé jusqu'à 145, et chaque fois qu'il y a la violence, nous dégringolons, nous sommes en 66e. Donc le président rappelle que nous devons avoir ça en tête pour que nous gérons nos pays par le dialogue et la paix.
Cette précision aussi s'ajoute à un communiqué que le PDC a produit, un communiqué qui a été interprété ici et là, par rapport donc à une déclaration commune de groupement politique pour dénoncer l'emprisonnement des membres d'un mouvement politique, le GPS en l'occurrence. Est-ce que tout cela n'est pas une précision pour vous, pour clarifier la position du PDCI?
Non, le PDCI a toujours une position claire. Nous ne faisons que rappeler. Nous rappelons à partenaires et adversaires qu'il y a des valeurs cardinales qui caractérisent le PDCI-RDA. Nous sommes toujours pour la justice, pour la démocratie, pour les droits humains. Donc quand une personne est condamnée, il faut toujours dénoncer cela quand cela ne respecte pas ses droits humains et la démocratie. Par ailleurs, nous rappelons aussi à nos militants pour dire que chaque fois que nous allons poser un pas, on voulait vous rassurer que cela va se faire dans le cadre de nos valeurs qui sont la non-violence, le dialogue, l'équité, la justice et la démocratie.
Dans cet environnement d'appel à la cohésion au sein donc des partis politiques d'opposition notamment, est-ce que c'est une manière d'indiquer avec qui vous allez collaborer? Ces formations doivent pouvoir épouser votre ligne directrice, c'est cela?
Tout parti politique, toute association, tout mouvement qui doit faire chemin commun avec le PDCI-RDA doit s'assurer que nous, au PDCI-RDA, nous avons des principes de base, des valeurs, et le président l'a dit, on ne vient pas au pouvoir par tous les moyens. Si certaines personnes pensent qu'ils peuvent arriver au pouvoir par tous moyens, nous, au PDCI-RDA, nous avons dans notre ADN la démocratie, la paix et le dialogue pour accéder au pouvoir. Et les Ivoiriens, aujourd'hui, commencent à adhérer à l'esprit d'un parti qui, lui, prône la paix, la cohésion sociale, le dialogue et la démocratie.
Alors, dans la stratégie de conquête de pouvoir, hein, des voix s'élèvent, justement pour insister sur l'unicité d'action de l'opposition. On a entendu l'appel de Bonoua, l'appel de Bondoukou. Où se positionne le PDCI dans ces différents appels-là?
Non, ces appels viennent compléter l'appel du président Henri Konan-Bédier à Daoukro, rappelez-vous, de former une alliance non idéologique de tous les partis politiques. Et à l'entame de son mandat comme président du PDCI RDA, le président Tidjane Thiam a rencontré l'ensemble des grands leaders. Il s'est déplacé à Maman pour aller voir le président Gbagbo. Il a vu Madame Simone Gbagbo. Il a vu un certain nombre de partis politiques, des mouvements, associations, de la société civile pour dire « battons-nous ensemble ». Pour rendre les élections transparentes et équitables. C'est ça, et c'est le même combat que je pense que tous les partis le font. Tous les partis réclament des élections transparentes et inclusives. Mm-hmm. Et c'est dans ce sens que nous sommes ensemble avec tous les partis politiques dans le grand ensemble de l'opposition. Mm-hmm. Voilà.
Alors, des voix qui s'élèvent pour l'unité de l'opposition. Au niveau du régime, l'un des porte-parole a, dans une interview, indiqué que la place du PDCI, c'est au RHDP. Est-ce que vous vous sentez concerné par cet appel indirect donc, du parti au pouvoir?
Depuis 2018, le président Henri Konan-Bédié nous a fait sortir du RHDP avec raison. Et donc, nous ne sommes pas concernés par des choses. Tous les grands partis sont partis du PDCI RDA, qui est le parti fondateur. Donc, s'il y a des gens qui pensent qu'ils ont des valeurs à partager avec nous, qu'ils reviennent au PDCI RDA. Ce n'est pas de problème. On ne peut pas demander à l'arbre de se muer en branche. C'est la branche qui doit se conformer aux ADN, aux valeurs et à ce qui concerne les caractéristiques de l'arbre. Même si la branche pense qu'elle a des feuillages, mais les feuillages ne font pas la force d'un arbre. Ce sont les racines qui font la force d'un arbre. Et les racines du pays sont au PDCI RDA.
Kwasi Brendoumi Ismaïla, je vous remercie.
Merci beaucoup.
C'était l'invité de la rédaction avec Kwasi Brendoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA. Et c'est donc ici que prend fin cette édition. Tout de suite, le rappel des titres. En visite dans le sud Koumoué, le Premier ministre Robert Begré-Mambé rassure les populations de Bonoua du soutien de l'État. Et dans le Bounkani, les populations ont été sensibilisées à la gestion des conflits et à la prévention de la paix. Hors de chez nous, le Mali, le Burkina Faso et le Niger lancent de nouveaux passeports biométriques. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Retrouvez maintenant la revue de presse avec Mel Emmanuel.
Bonjour. À 2 semaines de l'ouverture de la campagne cacaoyère 2024-2025, des mesures sont en cours d'exécution pour